Originaire du Mexique, Paul C. Magaña est venu avec sa famille du Mexique au Canada en 2002. Il est diplômé en relations internationales et aujourd'hui, il va nous parler de sa décision de quitter son pays d'origine et de sa perspective sur le contexte politico-économico-social explosif dans lequel 43 étudiants ont disparu récemment au Mexique. Bonjour, Paul.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Oui, avec plaisir. Donc, tout d'abord, parlez-nous un peu du climat de violence au Mexique, brièvement, et pourquoi vous avez décidé de venir au Canada avec votre femme et vos deux filles.
OK. Au début des années 80, j'ai assisté à une détérioration de la situation sociale au Mexique, ce qui a eu comme effet immédiat un climat de violence sociale, je veux dire une augmentation assez importante de la criminalité gratuite, des assassinats à droite à gauche, une vague d'enlèvements un peu partout dans le pays. Et vu à cette situation, j'ai décidé que je voulais trouver un endroit sécuritaire pour faire grandir mes enfants.
D'accord. Et ensuite, avant de faire l'analyse plus profonde, et surtout pour les auditeurs qui ne savent pas, donnez-nous votre version de ce qui s'est passé des 43 étudiants disparus, ainsi que les différentes théories qui circulent dans les médias à ce sujet que vous avez vu, entendu, lu.
Okay. Pour entrer dans le contexte, je dois vous dire le Mexique vient d'une histoire assez mouvementée qui débute avec la révolution dans les années 1910. Et tranquillement, les forces politiques ont instauré un système, je dirais, dictatorial que tout le monde connaît. D'ailleurs, qui est connu comme la dictature parfaite, représentée par le parti au pouvoir, le Parti révolutionnaire institutionnel, PRI. Mais il faut dire que dans les années 30-35, on a connu une présidence qui a bâti le pays qu'on connaît aujourd'hui, la présidence du général Lázaro Cárdenas. Bon, dans les années 30, Lázaro Cárdenas avait proposé la création d'un système de formation vite d'enseignants. Alors, il a créé les écoles normales rurales pour permettre aux Indiens, les autochtones mexicains, de se former et pouvoir alphabétiser leur communauté. Bon, au fil des ans, dans ces écoles normales rurales, ça a été le noyau des révolutionnaires modernes mexicains, si vous voulez. C'est là où des membres de la communauté rurale ont commencé à avoir des idées révolutionnaires. D'ailleurs, les guérillas que le Mexique a connues dans les années 70 sont nées dans ce contexte-là. Bon, il faut comprendre alors que d'abord, la plupart des étudiants des écoles normales rurales sont des gens très pauvres, qui sont des paysans et qui ont été frappés par les différentes crises, mais surtout aujourd'hui par la production, par le commerce des drogues. Les narcos s'installent dans leur territoire et les obligent de force à produire de la drogue. Alors, les étudiants sont très actifs et ils ont décidé cette nuit du 27 septembre de kidnapper des autobus à la ville d'Iguala, dans l'état de Guerrero, pour se rendre à la ville de Mexico. Et pour participer à une grande manifestation. La version officielle qui circule, c'est que à ce moment-là, la femme du maire de la ville d'Iguala présentait un rapport de ses activités dans le cadre de ses fonctions en tant que présidente d'un organisme qui vient en aide des femmes et des enfants.
Oui.
Alors, il paraît-il que le président municipal, je veux dire le maire de la ville, a donné l'ordre d'arrêter ces étudiants qui, soi-disant, voulaient perturber l'acte. Mais en fait, la version, c'est qu'il voulait se rendre à la ville de Mexico, qui se trouve à peu près à 3 heures de route. Alors, les policiers municipaux les ont interpellés, ils les ont kidnappés. Et d'après les déclarations, ils ont été rendus à une gang de trafiquants qui les ont soi-disant, selon la version officielle, tué et après ça incinéré. L'autre version qui circule, que je pense qu'elle est un peu plus crédible, c'est le fait que c'est connu que l'État de Guerrero est un principal producteur de drogue, surtout de la gomme d'opio, et qui est par la suite acheminée au marché américain. Et il paraît que Iguala est le centre de distribution, si vous voulez, de la drogue. Et que les trafiquants utilisent le transport, les bus routiers pour la transportation de cette drogue-là. Et que par malheur des étudiants, ils ont kidnappé un bus qui était destiné à partir ce soir-là en destination de la frontière américaine.
Mm-hmm. Mais... Oui, donc, est-ce que vous voulez élaborer sur ce qui peut être comme la complicité entre narco-État-élite?
OK. Le Mexique a connu une croissance spectaculaire des activités de narcotrafic.
Oui.
Et la seule explication qu'on peut donner, c'est que, à quelque part, l'État a fermé les yeux ou plus que ça fait partie de cette business, de cette affaire qui est très lucrative. Il faut dire que à partir des années, je dirais 96, le gouvernement a décidé de s'attaquer au problème de la drogue en lançant ce qu'ils appellent une guerre. Mais effectivement, c'est une guerre parce que aujourd'hui, on compte un peu plus que 100 millions de personnes assassinées durant cette période-là. Et ce qui est dramatique, vu que le nombre de décès est exponentiel. Et si on le compare avec tous les guerres qu'on connaît aujourd'hui, de loin, on les dépasse. Et il faut dire aussi qu'un problème grave de la société mondiale et qu'on voit clairement au Mexique, c'est le niveau de corruption de nos politiciens.
Oui.
Être politicien, c'est un synonyme de devenir milliardaire. Maintenant, on a un scandale sur la place publique. Et monsieur le président Peña Nieto, qui a épousé une ancienne comédienne de la télévision privée mexicaine, et vient de s'acheter une maison au prix de 8 millions de dollars. Et la présidence de la République nous fait croire que c'est madame, avec l'effort de son travail, qui a pu acheter cette maison-là. Et bien entendu, si on compare avec les grosses vedettes de Hollywood, on connaît leur salaire et on sait qu'ils peuvent se permettre d'acheter ça, on voit difficilement comment madame la présidente, que depuis 3 ans, elle ne travaille pas, elle puisse acheter une villa de 8 millions de dollars. Alors, tout ça nous parle d'un niveau de corruption très élevé. Mais je dis le président, mais c'est à tous les niveaux de gouvernement, soit municipal, provincial ou fédéral.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu d'autres scandales aussi avec un aéroport et puis un avion privé, c'est ça?
Oui, justement, le président sortant, il y a 2 ans, M. Calderón, a décidé d'acheter un avion pour remplacer l'avion présidentiel. Et c'est correct, l'avion avait déjà travaillé beaucoup. Et là, ils ont acheté un avion nouvelle génération au prix de 1 milliard de dollars, ce qui est vraiment scandaleux. Il est rendu l'avion civil, commercial le plus cher au monde. Même l'Air Force One, qui est la référence, le top en technologie, c'est un avion qui n'arrive même pas aux 300 millions de dollars. Alors, c'est clair que si l'avion mexicain a atteint le 1 milliard, sûrement, on a des questions à se poser, non?
Oui. Donc, dernièrement, des militants ici demandent que le Canada enlève le Mexique de sa liste de pays « sûrs », en guillemets. Alors, comment se fait-il que le Canada considère le Mexique sécuritaire? Et en répondant, vous pouvez aussi, si vous le voulez, nous parler du Mexique par rapport à son économie dans le contexte international.
OK. Le Mexique reste un pays sécuritaire pour le tourisme, au sens que les places visitées par le touriste restent bien protégées et on dirait qu'il y a une entente, je peux pas, j'ai pas des preuves, mais il y a une entente entre les gangs et l'État pour que certaines places restent sécuritaires, parce qu'il faut comprendre qu'après le pétrole, le tourisme représente la deuxième source de devises pour le pays. Alors, ce qui concerne le contexte économique, tout le monde sait que le monde a choisi la voie de la globalisation, où chaque pays a son rôle à jouer dans ce concept de réalité économique et politique. Et bon, le Mexique, c'est clair que dans quelques années, vu l'importance de son marché intérieur, va faire partie des 20 à 25 puissances mondiales. Le Mexique reste un pays principalement important vu les richesses, hydrocarbures, les richesses minières, etc. Alors, c'est très important de conserver le Mexique comme étant un pays sous-développé dans le développement. Je dis ça parce qu'il ne faut pas oublier, on est 110 millions d'habitants, dont officiellement 60 millions sont dans la pauvreté extrême. Moi, je dirais 70 millions parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 10 millions de Mexicains qui travaillent aux États-Unis et qu'ils ont quitté le pays parce qu'il n'y avait pas de conditions pour y rester. Et une chose est claire, c'est que tout le monde, je veux dire la planète en entier, les pays développés ont l'intérêt de garder le Mexique en tant que pays sous-développé avec des différences entre les classes sociales abysmales. Je peux vous dire que le 10% du pays, de la population du pays possède le 90% de la richesse. Et c'est insoustenable. Et bon, la seule solution que je vois à tous les problèmes, c'est sérieusement, l'être humain doit se dire, c'est le temps de changer l'ordre mondial, parce que on peut plus continuer comme ça. Et c'est normal, je le dis clairement, les populations du Sud, de plus en plus, vont essayer d'immigrer vers le Nord, je veux dire l'Europe occidentale, les États-Unis, le Canada, parce que les gens essayent de survivre, et c'est là où ils peuvent trouver un bonheur qu'il leur est interdit d'obtenir chez eux.
Oui, parfait. Merci. Et pour terminer un peu à ce sujet, une dernière double question. Donc, si vous voulez nous dire un peu l'idéologie qui domine la mentalité mexicaine et les alternatives à futur.
OK. Et dans tout mon discours, j'ai oublié de mettre l'accent sur les jeunes disparus. Il faut dire que les 43 étudiants de Ayotzinapa, et c'est, disons, la pointe de l'iceberg. En réalité, partout au pays, il y a des revendications. Et on a une catégorie, j'ai honte de le dire, mais on a un concept qu'on connaît tous au Mexique, c'est les nini. Vous avez bien entendu, nini, ça veut dire ni étudie, ni travaille. Et c'est la réalité du 80% des jeunes de moins de 25 ans au Mexique. Alors, comme ça, le pays ne peut aller nulle part. Et les jeunes disparus, le gouvernement dit qu'ils sont morts. Il n'y a pas de preuve de ce fait-là. Et les parents ont l'espoir de les retrouver vivants. Il y a des mobilisations tout le long du pays. D'ailleurs, les parents se sont divisés en trois caravanes qui font tout le pays pour conscientiser le monde et pour avoir des contacts avec les organisations sociales. Et le pays a appelé le 20 novembre à organiser une grande mobilisation et ils appellent même à la grève générale. Non, je ne sais pas si ça va aboutir à quelque part, je ne suis pas certain. De toute façon, l'État est très puissant. L'appareil de l'État est très efficace, sûrement ils vont pouvoir, je pense, je souhaite pas, mais ils vont pouvoir maîtriser la situation. Et voilà. Et bon, par rapport à l'avenir, dans le court terme, je vois pas beaucoup de possibilités. Dans le long terme, ça va être l'épuisement social qui va permettre de changer les choses. Mais sinon, je pense que ça va être très difficile. Et le changement au Mexique, ça passe forcément par un changement d'idéologie globale. Parce que la même situation, on retrouve au Brésil, en Afrique subsaharienne, en Asie, un peu partout, c'est le même modèle. Alors, ça ne fonctionne pas.
Merci beaucoup, Paul, pour cette belle analyse. Donc, c'était Paul C. Magagna.
C'est moi qui vous remercie.